I'm going to read Mr. Zakaria Lingani's bio in French first, and then I'll try to explain it in English more.
It's my first language. I prefer to present
in French.
In French.
Mr. Zakaria Lingani est formateur en droit de la personne à la direction de la recherche de l'éducation, coopération et des communications de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse à Montréal. Diplômé des universités de Ouagadougou au
Burkina Faso
et de Paris, la Sorbonne en France, M. Lingani, anthropologue de formation, s'est installé au Québec depuis 1998. Il a œuvré pendant plusieurs années dans le domaine des droits de la personne et de la formation interculturelle nécessaire aux enjeux du vivre ensemble. Dans le cadre de son expertise, il a fondé Entre Cultures, une entreprise autonome qui vise à promouvoir la diversité et l'inclusion dans la société québécoise. M. Lingani est par ailleurs romancier et essayiste et auteur de nombreux projets éducatifs. Now, I'm going to try to go over this in English.
Tu peux juste dire où je travaille. Je suis formateur.
So, Mr. Zakaria Lingani works for the
Quebec Human Rights Commission.
Human Rights Commission, thank you. It's a long title in French. He studied in Burkina Faso and France. And he studied anthropology and has been living in Quebec since 1998. He worked for many years in the fields of human rights and intercultural education. he created an organization called Entre Cultures. And this organization basically aims to promote diversity and inclusion in Quebec society. And on top of that, Mr. Lingani is also a writer and has created and worked on many educational projects. So the way we're going to do this is that there will be whisper translators. Hopefully won't bother the other people too much. And we'll try to make it as accessible to everybody as possible.
Bien, merci tout le monde. Ben, on va aborder l'exclusion des Noirs au Canada, des origines à nos jours. Parce que bien souvent, pour bien expliquer des problématiques contemporaines, là, il faut remonter dans l'histoire pour voir d'où s'origine et plusieurs facteurs d'exclusion. On sait que, pas seulement au Québec, partout au Canada d'ailleurs, que les communautés noires au pluriel, là, tirent de l'arrière sur plusieurs indicateurs, qu'ils soient économiques ou sociaux. Et que les exclusions vécues au Canada, même si elles ne sont pas totalement comparables à celles des États-Unis que vivaient les Afro-Américains jusqu'à une période récente, là, ont beaucoup de similarités. Je vais donc de remonter à travers l'histoire, là, toute cette vie. On sait également que nos jeunes, en particulier, sont extrêmement vulnérables en fonction de ces facteurs de discrimination qui vont s'exprimer notamment dans les indicateurs d'éducation, pour les adultes en matière d'employabilité, pour des conditions socio-économiques, parfois aussi la défavorisation économique, on va le voir par les chiffres. En tout état des causes, nous avons une charte des droits et libertés qui, en théorie, protège tous les citoyens victimes de discrimination. Ce n'est pas, c'est comme pour la route, c'est pas parce qu'il y a un code de sécurité routière qu'il n'y a pas de discrimination et qu'il n'y a pas d'infraction au niveau de la route. Les deux dernières années à la Commission, on a reçu à peu près 100 plaintes en matière de discrimination raciale. Ces plaintes vont concerner essentiellement les policiers, profilage racial, la discrimination en emploi ou parfois dans le logement. Pendant des années, on n'avait pas beaucoup de plaintes de discrimination raciale, mais les deux dernières années, ça a augmenté. Je ne sais pas, est-ce que c'est la population qui est un peu plus sensibilisée à la question, ou est-ce que ces facteurs de discrimination se sont multipliés? Historiquement, ici au Québec, il y a eu de l'esclavage. Certaines personnes croient que quand on voit un Noir qui marche à Montréal, il est nécessairement arrivé par Mirabel, ou par Dorval, ou par conteneur, ou je ne sais quoi d'autre. Et ce n'est pas nécessairement vrai. Nous avons une partie de la population noire au Canada qu'on peut considérer comme d'origine, c'est-à-dire qui était installée dès le début de la colonie. Alors, Marcel Trudel, un historien québécois, a recensé qu'avant 1800, de la Gaspésie à Détroit, aux États-Unis, là, c'était encore le territoire de la France, et la France donc était la puissance colonisatrice, il y avait à peu près 4000 esclaves. Les deux tiers étaient amérindiens et l'autre tiers étaient des Américains. Le premier noir qui est connu ici au Québec, c'est Olivier le Jeune, qui a été le premier esclave qui a été amené d'Afrique au Canada. Il est vendu en 1629. Progressivement, au début de la colonie, de 1750 à 1960, environ 1000 noirs vont être amenés soit de la Nouvelle-Angleterre, soit des Antilles pour être réduits en esclavage. Par exemple, il y a un recensement dans les cantons de l'Est en 1851 qui recensait à Bromissisquoi 280 Noirs qui y vivaient. La majorité des Noirs en Nouvelle-France vivaient dans les villes, essentiellement à Montréal. Je crois que vous êtes un peu au courant de la tragédie d'Angélique, l'esclave noir qui avait été accusé d'avoir mis le feu à une résidence et qui a été donc pendu et brûlé ici à Montréal. La majorité de ces esclaves travaillaient comme domestiques. Et l'espérance de vie de la plupart d'entre eux n'était pas très élevée. C'était environ une trentaine d'années. Mais à ce petit noyau d'esclaves, là, estimé à peu près à 1200 personnes, là, va s'ajouter tranquillement d'autres esclaves qui vont fuir deux événements principaux. L'indépendance américaine et l'esclavage aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on va appeler les loyalistes noirs, tous les noirs qui étaient esclaves aux États-Unis, qui vont accepter de se battre pour la couronne britannique en échange de leur liberté. Conséquemment, on sait que le Canada, la couronne britannique, perd la guerre face aux sécessionnistes américains. Les États-Unis deviennent donc indépendants. Et les pères fondateurs des États-Unis, dans la Constitution américaine, n'abolissent pas l'esclavage. Et ces loyalistes noirs vont venir donc avec les fidèles donc à la couronne, venir s'installer essentiellement en Nouvelle-Écosse. La plus forte communauté noire est en Nouvelle-Écosse. Certains vont s'installer dans la région de l'Ontario. On leur avait promis des terres et la liberté. Mais une fois qu'ils sont arrivés ici en Nouvelle-Écosse ou en Ontario, ils n'ont pas eu les meilleures terres. Bien souvent, ces petites communautés noires-là vivaient à la périphérie des agglomérations blanches, avaient les plus mauvaises terres et n'avaient pas accès à toutes les ressources que peuvent offrir une vie moderne. C'est-à-dire, ils n'avaient pas l'accès à l'eau potable nécessairement, ils n'avaient pas accès à l'éducation, par exemple. Et jusqu'à une période très récente en Nouvelle-Écosse, pour ceux qui ont la chance de visiter la région d'Halifax, vous verrez donc ces quartiers-là encore qui sont extrêmement pauvres, ces quartiers-là qui sont habités donc par cette population d'origine afro-canadienne. En 1791, la couronne britannique, bien avant l'abolition de l'esclavage, a proposé aux Noirs qui le désiraient, qui étaient au Canada, de retourner en Afrique. À peu près 1000 hommes, femmes et enfants vont accepter de retourner en Sierra Leone, qui est actuellement en Afrique de l'Ouest. Et puis, mais beaucoup refuseront de repartir. Alors, dans la série des guerres qui vont continuer jusqu'en 1835, il y aura encore des Noirs qui vont se réfugier ici. Comme ils ont la liberté, ça va encourager les abolitionnistes américains, dont notamment Mme Harriet Tubman, qui va développer ce qu'on appelle le chemin de fer clandestin. C'est une organisation d'abolitionnistes américains, blancs ou noirs, qui, par une série de sentiers, vont faire évader des esclaves américains pour venir s'établir ici au Canada. On estime que c'est à peu près 30 000 personnes que Mme Tubman et ses amis ont pu faire sortir des États-Unis d'Amérique. Voilà donc la photo de Mme Tubman. Parce qu'il faut bien se dire que le Canada, nulle part dans le Canada, à l'exception de la loi sur les Indiens, la loi sur les sauvages, il n'y a pas dans les lois canadiennes, dans la législation canadienne, un texte en tant que tel qui était ségrégationniste, comme on aurait pu le voir aux États-Unis, par exemple, où c'était enchâssé dans la loi. Cependant, les Canadiens et les Américains sont tous des anglo-saxons. Oui. Under laws, law. Ah, okay. And do you remember Jim Crow laws?
Yes, Jim Crow laws.
Okay. Alors, les Canadiens et les Américains partageaient les mêmes préjugés vis-à-vis des peuples de couleur. Ainsi donc, après les Autochtones, après les Noirs, les immigrants chinois qui viendront construire le chemin de fer. Le grand tronc, là, qui va aller jusqu'à Vancouver aussi, vont subir cette discrimination de la part du gouvernement fédéral, puisque après la construction du chemin de fer, le gouvernement fédéral avait voulu que les travailleurs chinois rentrent en Chine. ce que la plupart ont refusé, si bien que le gouvernement fédéral a dû voter une loi interdisant le regroupement familial et l'immigration des Chinois au Canada. Cette loi n'a été abolie qu'à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. C'était le cas aussi des Japonais qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ont été déportés. Essentiellement, c'était à Victoria, en Colombie-Britannique, qui étaient déportés dans les Rocheuses parce que le gouvernement canadien craignait qu'ils ne soient pas loyaux à la couronne. Alors, en 1911, par exemple, il y a une rumeur qui court qu'il y a des Noirs de l'Oklahoma qui veulent venir s'installer au Canada. Alors, quelques centaines arrivent, effectivement, et s'installent, notamment dans la région de Toronto, à Winnipeg et à Edmonton. Alors, cette arrivée de Noirs, là, pose des problèmes à la majorité blanche. Alors, les journaux s'inquiètent que des Noirs puissent venir s'installer au Canada et fonder des colonies. Alors, ce qui va se passer, c'est que la Chambre de commerce d'Edmonton va adresser une pétition au gouvernement fédéral en disant qu'il n'est pas dans l'intérêt du Canada que des Afro-Américains viennent s'installer parce qu'ils ne sont pas intégrables à la majorité blanche. Et le député d'Edmonton, qui était le ministre de l'immigration, le ministre de l'Intérieur de Sir Wilfrid Laurier, il relaie donc cette pétition auprès du gouvernement fédéral qui est obligé de voter une loi. Donc il y a une loi qui est votée en 1911 interdisant l'immigration des Noirs au Canada pendant un an. La loi n'a pas été appliquée, mais d'une certaine façon, on a donné des consignes aux agents d'immigration pour dissuader les Afro-Américains en leur disant qu'il fait trop froid au Canada, que ça prend aussi d'avoir de l'argent pour pouvoir se soigner si jamais on tombait malade, si bien que d'une façon ou d'une autre, l'immigration afro-américaine a été découragée après la fin de la guerre de sécession. Cette immigration, quand même, va reprendre tranquillement, à la faveur essentiellement de la déségrégation aux États-Unis. Parce qu'il faut bien se le dire, jusqu'en 1905, je vous donne par exemple la commission scolaire d'Halifax n'a aboli la ségrégation dans les écoles qu'en 1954. À Toronto, c'est en 67. Donc, ça s'est fait concomitamment à la lutte pour les droits civils aux États-Unis. Alors, ces Noirs-là, comme je dis, souvent les Noirs d'Halifax, les Noirs des petites communautés Edmonton tirent de l'arrière au point de vue économique. La pauvreté, la discrimination et l'exclusion étaient courantes. Alors, on prend le cas, par exemple, de la communauté noire qui est à Montréal, celle qui habite dans le quartier de la petite Bourgogne-Saint-Henri. Je ne sais pas, vous les connaissez, non? Les Afro-Canadiens qui habitent là. Bien, ça, c'est une communauté aussi dont certains descendants sont des esclaves, d'autres des fugitifs américains ou des Antillais encore qui émigrent au Canada, qui rejoignent cette petite communauté-là. Et cette communauté, naturellement, est exclue de la majorité blanche, qu'elle soit anglophone ou francophone. Ces gens sont donc obligés de s'organiser dans le quartier. Ils fondent leur église, la United Church, par exemple, qui est toujours là comme église, qui va donc apporter de l'aide aux membres de la communauté. Et puis, une dame qui va beaucoup travailler chez eux, Anne Greenup, qui, elle, va fonder la Colored Women's Club. C'est le premier club de femmes noires en Amérique du Nord. Alors, ces Noirs-là ne travaillent que comme porteurs, balayeurs ou bagagistes sur le grand tronc, le chemin de fer. C'est le seul métier qui leur était permis. Un jazzman comme Oscar Peterson disait que quand ils allaient faire des concerts, par exemple, ils ne pouvaient pas dormir dans les hôtels. C'était la ségrégation, ils ne pouvaient pas dormir dans les hôtels où résidaient des Blancs. Même si au Canada, nulle part, on a affiché une ségrégation officielle pour dire, par exemple, Colored Only, là, comme on voyait aux États-Unis. Pratiquement, c'est ce qui se passait. On s'entend que ces Noirs n'allaient pas dans les mêmes écoles, n'étaient pas enterrés dans les mêmes cimetières, et encore moins allaient dans les mêmes églises que la majorité blanche. Alors, en 1960, le gouvernement du Canada change sa loi sur l'immigration, élève un préjugé à l'encontre des immigrants non blancs, principalement d'origine antillaise ou africaine. C'est à partir de ce moment-là que, au premier noyau des Afro-Canadiens, va s'ajouter une immigration qui va être en provenance de presque tous les pays habités par des Noirs, que ce soit en Afrique ou dans les Caraïbes. Alors, le recensement de 2001 nous dit qu'il y a 662 200 Noirs qui vivent ici au Canada, soit 2,2% de la population totale du Canada. Les Noirs constituent 17% des minorités dites visibles. Nous sommes majoritaires, suivi par les Latinos et les Asiatiques. La majorité de la communauté noire, 152 200 personnes au Québec, il y a 152 200 personnes, vivent en majorité à Montréal à 92%. Alors, je vais vous demander, pourquoi vivent-ils tous à Montréal? Qui a une réponse? Les services. Les services? Il y a des services à Québec aussi. Plus de travail, oui. Et c'est sûr que les villes, mais ça c'est un phénomène qu'on remarque, à l'exception des États-Unis qui ont une histoire quand même de la répartition des Noirs à travers tous les États américains, hein. Il est sûr que dans beaucoup de pays d'immigration, les minorités ethno-culturelles vont se regrouper dans les grands centres urbains pour diverses raisons, ça peut être des raisons culturelles. Avoir son épicerie, son journal, et puis avoir ce que j'appelle une masse critique, trouver des gens qu'on connaît, être en soi, si on veut dire. Oui? Non, non, it's in Quebec. Yes, Quebec. So what for all Canada?
Yeah. So how many are you saying? 152 went to Quebec, right?
Yes.
And the rest went to Ontario or Nova Scotia?
Yeah, yes. Okay. All Canada. En réalité, il ne faut pas dire la communauté noire, parce qu'encore une fois, vous allez voir que le gouvernement, qu'il soit fédéral ou gouvernement du Québec, que ce soit les médias, vont toujours utiliser une variable d'identification qui consiste à dire les noirs, en les réduisant à une seule catégorie. Alors qu'on s'entend très bien que même dans le recensement, là, le gouvernement distingue par exemple les Asiatiques de Chine des Asiatiques du Sud-Est qui sont les Sri Lankais et les Pakistanais. Et cette réduction n'a pas de sens dans la mesure où, étant issus de communautés de pays extrêmement variés et différents, ben, ces Noirs n'ont pas les mêmes attentes dans la société canadienne ou n'ont pas les mêmes trajectoires individuelles ou collectives. Par exemple, 62 000 personnes, 72% du total des Noirs du Québec viennent des Caraïbes et des Bermudes. 17 000 personnes viennent des pays d'Afrique noire. Et la majorité des Noirs au Québec ici sont d'origine haïtienne, puisque c'est 74 500 citoyens qui se déclarent de descendance haïtienne. 41 personnes des gens de couleur noire sont nés au Québec. Et là, on va le voir dans les reproches que les gens font en matière de discrimination. Les gens disent, mais je suis né ici, mon père est né ici avant moi, et les gens continuent à croire que je suis un immigrant. On n'est plus un immigrant dès l'instant où on est dans un pays, là. On devient un natif. Mais c'est une perception publique qui est assez répandue. Ouais. Ça, c'est le Canada, le dernier chiffre. 41% de personnes de couleur noire sont nées au Canada. 54% ont immigré, tandis que les 5% restants sont des détenteurs d'un statut de résident. Bon, ça, ce sont les derniers chiffres qu'on a. Alors, cette communauté tire de l'arrière. Les indicateurs de revenus et de chômage, ma collègue Joanne Magor a parlé ce matin, là, sont extrêmement négatifs. Vous voyez que le revenu moyen de la population noire est autour de 19 000 $, soit 7 600 $ de moins que la majorité de l'ensemble de la population du Québec. Le taux de chômage atteint des chiffres astronomiques, 17,1%. Il n'y a que la communauté arabe, depuis le 11 septembre, qui a dépassé la communauté noire en matière d'indicateurs de chômage, parce que les Arabes sont à 21% aujourd'hui. Pendant longtemps, c'était les Noirs qui étaient devant, mais maintenant, c'est les Arabes. Alors, donc, le taux de chômage fait presque le double de celui de la province, puisque le taux de chômage moyen de la province étant à 8,2. Bien qu'on n'ait même pas été touché par la crise boursière qui a frappé les États-Unis, et cette communauté-là ne bénéficie pas pour autant de cette stabilité économique. Un autre indicateur aussi, c'est la famille monoparentale. Il y a beaucoup de monoparentalité dans les communautés noires, essentiellement celles qui viennent des Caraïbes. On dit chez nous à la Commission qu'elles vivent ce qu'on appelle la discrimination multifactorielle, c'est-à-dire qu'elles sont à la fois femmes, noires, monoparentales, pauvres. Alors, ce sont des facteurs de défavorisation économique qui ne les aident pas beaucoup. Je vous donne par exemple le quartier de la Petite-Bourgogne. C'est effrayant. 50% des résidents du quartier vivent sous le seuil de la pauvreté. Et sur, il y a ce qu'on appelle, les statisticiens appellent les pauvres qui travaillent. Quand vous travaillez au salaire minimum, vous êtes toujours un pauvre. Alors, regardez, 57% des familles de la Petite-Bourgogne travaillent, mais sont toujours en dessous du seuil de la pauvreté. Alors, puisqu'au Canada, il faut dépasser de 30 000 $ pour espérer échapper au seuil de la pauvreté. Près de 4 familles sur 5, ça c'est des chiffres inquiétants, il faut que la communauté se pose des questions. 4 familles sur 5, 77% ne comptent aucun membre ayant acquis un diplôme secondaire. Oui, c'est des chiffres, ça c'est la Petite-Bourgogne, ça, oui. Ce n'est pas les chiffres de Saint-Léonard, de Saint-Michel, mais ça, c'est inquiétant. Oui. La moyenne pour toute l'île de Montréal, c'est 36%. Donc, c'est le double dans la petite Bourgogne. Non pas que les écoles n'existent pas dans la petite Bourgogne, mais la motivation de la persévérance scolaire n'existe pas dans la communauté. Alors, un autre indicateur de vulnérabilité que la Commission des droits de la personne s'est questionnée, je crois qu'il y a quelqu'un qui en a parlé ce matin, c'est peut-être vous qui en avez parlé, là. On voit par exemple que par rapport à leur poids dans la population, les jeunes noirs sont surreprésentés au sein du système de protection de la jeunesse, que ce soit BACHAO chez les anglophones ou la DPJ chez les francophones. Je vous donne l'exemple. Une étude qui a été faite par les chercheurs Chantal Lavagne et Sarah Dufault de l'UQAM, qui montre que sur un échantillon de 3918 jeunes de 17 ans et moins, dont le signalement a été retenu par la LPJ entre juillet 2007 et juillet 2008, il n'y a pas très longtemps, là, on constate que 7% de la population, les Noirs sont 7% de la population montréalaise, mais ils forment 18% des gens signalés. Et ce taux de surreprésentation des Noirs est supérieur à celui d'autres minorités racisées, comme par exemple les Arabes, les Latino-Américains ou les Asiatiques. Et là, c'est valable dans les deux systèmes anglophones ou francophones. Chez les francophones, la surreprésentation des jeunes Noirs concerne la majorité des enfants issus de familles haïtiennes. Alors, à ces familles, bien souvent aussi, bien c'est un signalement, on leur applique les mesures de protection immédiate. C'est-à-dire que l'enfant, parfois, est arraché à sa famille, placé, tout ça. Bon, la commission se questionne à savoir est-ce que les intervenants de la DPJ n'interviennent pas trop rapidement quand il s'agit de ces familles-là, donc de ces familles parfois monoparentales. Et les causes qui ont été identifiées pour le signalement sont le plus souvent des sanctions physiques ou la négligence parentale. On citait le cas d'une famille. Et là, c'est l'assistante sociale qui a signalé la famille parce que l'assistante sociale arrive dans la famille. La femme est une monoparentale d'origine haïtienne. Elle travaille au salaire minimum. Elle était en train de préparer une valise de vêtements pour envoyer à Haïti à la suite du tremblement de terre. Et l'assistante sociale lui dit, il n'y a pas de lait dans votre frigo et vous trouvez le moyen d'envoyer des vêtements à Haïti. Elle dit, mais ils sont encore plus pauvres que moi. Mais l'enfant a été signalé pour négligence. Et des cas comme ça, il y en a plein. Alors, si dans le cas d'un jeune blanc, le signalement est souvent fait par un voisin, dans le cas souvent des jeunes des minorités racisées, des minorités noires, là, le signalement est fait par les services officiels, c'est-à-dire l'école, les services de garde ou les professionnels de la santé qui vont remarquer, c'est eux qui vont signaler le plus souvent. Alors ce jeune noir-là subit encore beaucoup de préjugés dans la société. Et les préjugés contre les hommes noirs dans la société québécoise ou même les canadiennes, là, que ce soit le stéréotypage de ces minorités-là dans les médias, est associé à une image qui nous vient essentiellement de l'Afrique ou de la société américaine. C'est une image de sous-éducation, de guerre et de violence. Et ce préjugé-là est relayé et nourri même dans la société québécoise qui n'a pas de passé colonial, qui n'a pas de coexistence marquée ou soutenue historiquement avec des gens noirs. Donc, ces préjugés sont nourris, en fait, par une pensée qui est très occidentale. Le Danemark, par exemple, qui n'a jamais colonisé qui que ce soit, vous trouvez les mêmes indicateurs de préjugés vis-à-vis des Noirs. Voilà. Les jeunes dans les écoles aussi se plaignent que bien souvent, on les sollicite pour être des sportifs, parce que les modèles positifs qu'on leur donne, c'est les sportifs et les musiciens, et qu'ils sont moins sollicités pour les équipes de travail scolaire. Il y a encore ce qu'on appelle à la commission le linguicisme. C'est lorsque c'est encore une discrimination multifactorielle, lorsque vous êtes un jeune anglophone, vous parlez qu'en anglais, vous êtes noir, ben, ça vous pose encore davantage le problème d'intégration. Il y a les indicateurs de profilage racial. Ma collègue disait tantôt ce matin que la commission a étendu la notion du profilage racial non seulement au système des services de police, au système de la sécurité privée, au système judiciaire, au système de protection de la jeunesse, au système éducatif. On a essayé d'investiguer très large. Je ne sais pas si à la fin de notre consultation publique, on va maintenir le terme profilage racial en matière éducative ou si on va appeler ça discrimination systémique. Pour le moment, on n'a pas tranché. Alors, les indicateurs de profilage racial sont très, très forts, notamment en ce qui concerne le SPVM. Mais il n'y a pas que le SPVM parce que nous avons eu les mêmes quand nous avons fait l'enquête publique, que ce soit à Sherbrooke ou dans la ville de Québec. Il nous a été rapporté exactement les mêmes manifestations du profilage racial, à peu près dans les mêmes proportions. La majorité des plaintes que nous avons reçues, il y a à peu près une soixantaine de plaintes en matière de profilage racial, sont encore devant le tribunal.
la ville de Montréal a deux discours. Elle a un discours en parlant d'inclusion, en parlant de tolérance zéro en matière de racisme. Et puis, d'un autre côté, elle a embauché un avocat, Maître Boisvert, qui utilise toutes les manœuvres de la procédure pour faire échouer toutes les poursuites en matière de profilage entamées par la commission. C'est à cause de cela que la commission est allée en audience publique en disant « on va faire une consultation publique, là, Maître Boisvert ne pourra pas venir contester ce qu'on a à dire au public. On va documenter le profilage racial, donc on l'a documenté. Et je pense d'ici le mois de mars, on va sortir notre rapport et les recommandations. » Je vous donne quelques données de la loi d'accès à l'information. En 2006-2007, ça c'est des chiffres de la police, hein, parce que les policiers, à chaque fois qu'ils interpellent quelqu'un, que la personne ait une infraction, le fait qu'elle soit interpellée, arrêtée ou même relâchée ou inculpée, les policiers sont obligés de marquer l'origine ethnique. Alors, on remarque qu'en 2006-2007, les Noirs qui forment 29% des personnes interpellées, 29% des personnes interpellées dans l'île de Montréal sont des Noirs. Ils forment 17% des personnes arrêtées, alors qu'ils ne sont que 7% de la population. Ce qui suppose qu'ils sont deux fois plus arrêtés, contrôlés, que les gens de la majorité. Deuxième élément, le système de justice pénale. La commission s'est demandé si est-ce que le profilage policier ne nourrit pas le profilage, ne nourrit pas le système de justice. Parce que c'est l'entrée dans le système. Lorsqu'un jeune homme est arrêté une première fois, et ça, il y a des études qui sont terrifiantes. Christopher McCall, en regardant, par exemple, 4000 dossiers du tribunal de la jeunesse en 2000 et 2001, s'est rendu compte que plus de la moitié des interpellations concernant les jeunes noirs l'étaient faites sur observation directe du policier. Et que, quand c'était le cas d'un blanc, c'est un citoyen qui avait appelé le 911. Donc, il y a une apparence de sursurveillance. Et dans la plupart de ces cas-là, il disait, à infraction égale, infraction mineure, ben le jeune noir, il a intérêt à ne pas fumer un joint à côté de Berry-UQAM, parce qu'il risque d'avoir des problèmes. Mais si c'était un jeune blanc, le policier éteindrait, arracherait la drogue et puis donnerait un avertissement. Alors, regardez là par exemple, pour des infractions mineures, je ne dis pas qu'elles ne sont pas criminelles, souvent c'est laissé au désidérata du policier. Le policier peut dire, je donne un avertissement, si tu recommences, tu vas avoir des problèmes. Ou bien, je te connais. Ou bien, le policier peut demander d'intenter une poursuite. Ce qui a frappé ces chercheurs-là, sur 1518 jeunes de 12 à 18 ans arrêtés en 2001, là, sur l'île de Montréal, dont les dossiers ont été retenus aux fins de poursuite, 22% ont été identifiés par les policiers avec une demande d'intenter la poursuite par la couronne. Donc, à infraction égale, parfois, le policier va être plus sévère si vous êtes une minorité racisée. Il va demander à ce que ça aille plus loin, quand vous présente à la cour. Alors, si le système de justice est nourri, effectivement, les prisons aussi sont nourries. Regardez, il y a la surreprésentation carcérale des Noirs, et ça, c'est partout au Canada, là. Si on regarde dans les pénitenciers de compétence fédérale, les Noirs représentaient en 2007-2008 6,9% des délinquants sous responsabilité fédérale, alors qu'ils ne composent que 2,2% de la population. La situation des Autochtones est beaucoup plus alarmante. Ils sont 17% des prisonniers au Canada, alors qu'ils sont à peine 3,7% de la population. Quant aux Blancs, ils sont sous-représentés dans les prisons. Les Blancs composent 79% de la population canadienne et forment 67% des personnes incarcérées. Au Québec, on peut prendre les chiffres du Québec. Sur un total de 3328 délinquants en 2009 incarcérés dans les pénitenciers fédéraux de la région du Québec, il y avait 31 Arabes, 18 Asiatiques du Sud-Est, donc un de Pakistan essentiellement, là, un de Corée, 36 latino-américains et 215 noirs, toutes origines confondues. Bien qu'ils ne représentent que 2,2% de la population canadienne, je disais que les noirs représentent 6% des délinquants incarcérés à travers le pays. On constate aussi que si on prend une autre minorité racisée comme les Asiatiques sont 8% de la population canadienne, mais seulement 2% des personnes incarcérées. Et 4% des délinquants qui sont en probation dans la collectivité. Alors, les résultats indiquent que les Blancs ainsi que les Asiatiques sont sous-représentés dans le système correctionnel fédéral canadien, tandis que les Noirs sont sous-représentés. Cette sous-représentation des Noirs, et ça c'est frappant, et quand je regardais les chiffres, ce qui m'a frappé, j'ai lu d'autres études dans d'autres pays occidentaux, ils sont quasiment identiques aux chiffres d'incarcération proportionnellement là, aux États-Unis, en France, en Grande-Bretagne. Pareil. Bien que nous soyons des pays extrêmement différents, nous avons exactement la même politique de répression ou un taux d'incarcération similaire à ces pays-là, qui ont une longue histoire de discrimination plus ou moins officielle, ou qui ont des pays qui ont colonisé. Alors, vous me direz que tout ça, c'est négatif. Mais il n'y a pas que du négatif. Une fois, il y a un jeune du quartier de la Petite Bourgogne qui m'a dit, après, je fais une présentation sur le profilage racial, il m'a dit, Monsieur Lenghané, ça ne changera jamais. Je lui ai dit non, ça change lentement, mais ça change. À preuve, tes ancêtres étaient peut-être des esclaves, toi tu ne l'es plus. Là. C'est déjà une évolution. Alors il y a des évolutions. Nous avons déjà la Charte des droits et libertés qui existe, qui est un outil législatif qu'on s'est donné, qui est au-dessus de toutes les lois, qui nous permettent quand même d'intenter des poursuites. Comme disait ma collègue ce matin, bon, les communautés noires nous ont beaucoup reproché, la Commission, de n'avoir pas fait grand-chose depuis les 10 dernières années. En effet, depuis les 10 dernières années, on n'avait pas assez de ressources pour faire aboutir les plaintes de discrimination raciale. Parce que la personne qui a été discriminée, que ce soit dans le logement, dans l'emploi, en matière d'accès à un service public, cette personne veut que sa cause soit traitée parce qu'elle est blessée dans sa dignité. Elle se sent dévalorisée, elle se sent aliénée. Mais quand la chose dure au tribunal pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, je peux comprendre que le justiciable soit quand même découragé. Effectivement, on avait beaucoup de dossiers en retard. Là, on a pu recruter du personnel depuis que le Premier ministre a mis des moyens à notre disposition pour que les dossiers aillent un peu plus vite. Je pense que le délai de traitement actuellement, c'est 6 mois. Donc, il y a déjà un effort qui est fait pour désengorger tous les gens qui attendaient. Il y a également aussi au niveau du gouvernement, qu'il soit fédéral ou provincial, là, ce qu'on appelle des programmes d'accès à l'égalité. Ce sont des mesures dites de discrimination positive, inspirées du modèle américain là, qui consiste à mieux représenter les groupes qui, historiquement, sont discriminés. Les femmes, les autochtones, les minorités visibles et les personnes handicapées, les faire représenter dans toutes les institutions d'État. Par exemple, les commissions scolaires, que ce soit la Sûreté du Québec, que ce soit Hydro-Québec, ou encore même dans des entreprises privées qui reçoivent 100 000 $ et plus de subventions du gouvernement québécois. Ces programmes d'accès à l'égalité au Québec ne sont pas contraignants, contrairement aux États-Unis ou contrairement au gouvernement fédéral canadien. Et on compte sur la bonne volonté des chefs ou des gestionnaires en ressources humaines donc, pour mieux représenter donc, ces minorités-là. Il y a aussi la démarche que la Commission a faite récemment, c'est notre consultation publique sur le profilage racial. Ça, c'est un gros irritant des communautés noires. Ils veulent que le harcèlement policier cesse vis-à-vis de leurs jeunes. Donc, la Commission, je pense, a fait un grand pas en lançant cette consultation sur le profilage racial. Et je pense qu'il y a 10 ans, on n'aurait pas osé attaquer le problème de fond, attaquer la police de cette façon-là. Il y a aussi de plus en plus une immigration noire de plus en plus scolarisée qui vient essentiellement des pays d'Afrique. Donc, il y a un accroissement quand même au niveau de la représentativité intellectuelle là, des communautés noires. Donc, si je prends des noirs historiquement qui sont défavorisés ou sous-scolarisés, comme dans la petite Bourgogne, on a quand même une immigration qui est plus jeune, qui nous arrive et qui est beaucoup plus instruite. On pense que cette dynamique aussi va peut-être aider au changement. Il y a aussi, tranquillement, vous pouvez le voir à la télévision, moi, quand je suis arrivé au Québec il y a 10 ans, je ne voyais quasiment ni noirs ni arabes dans les téléséries de Radio-Canada là, ou de TVA. Aujourd'hui, quand même, lentement, je dis là, on essaie quand même d'intégrer certaines minorités dans les médias, dans ce qu'on appelle l'univers culturel symbolique, dans le cinéma ou dans les magazines. C'est lent, mais au moins, il y a un début d'effort qui commence à être fait. Il y a les engagements du gouvernement aussi. En 2006, le gouvernement du Québec a engagé une vaste enquête publique sur le racisme systémique vécu par certains Québécois. Et puis les conclusions ont été données en 2008 dans un plan d'action gouvernemental qui s'adresse à presque tous les ministères d'essayer d'enlever tous les obstacles à la promotion ou à la pleine participation des Québécois d'origine minoritaire ethnique ou de couleur. Il y a aussi l'éducation antiraciste. Qui dit racisme dit ignorance, dit préjugé. Et le fait que la Commission nous ait un mandat d'éducation, moi je suis à la direction de l'éducation là, consiste à les prévenir, consiste à aller parler aux gens. Et bien souvent, on a remarqué que quand les gens sont jeunes, quand on les sensibilise sur le sujet du préjugé, de la discrimination, ils sont capables de faire évoluer leurs sentiments. Alors, c'est peut-être à la source qu'il faut prendre. Et moi, je pense que dans les années à venir, malheureusement, il n'y a pas de façon formelle au niveau du ministère de l'Éducation. Ça, c'est un gros défaut au Québec, là. Il n'y a pas dans le curriculum un enseignement, il n'y a pas un enseignement qui s'appelle l'éducation antiraciste. Le ministère a mis ça dans un fourre-tout qui s'appelle instruction civique. Enseignement de la diversité interculturelle. Mais il aurait été bon qu'on ait, comme en Ontario, par exemple, moi, je vais chaque année en Alberta, là. Ben là, c'est inclus dans le curriculum scolaire que les jeunes doivent suivre un cours d'éducation antiraciste. Parce que c'est la meilleure façon de changer de façon durable les perceptions et les préjugés qui nuisent encore à des centaines de milliers de nos compatriotes en raison de leur couleur de peau. Voilà, mes chers amis, l'exposé est terminé. Merci. Oui. Ceux qui veulent le PowerPoint, je pourrais vous l'envoyer. Oui, il n'y a pas de problème. Comment je fais? Ah, ok.
Ah, ok. moi, en fait, j'avais plutôt des réflexions qui me sont venues au fur et à mesure de votre présentation. Peut-être que vous pourrez les adresser. J'aimerais commencer, par exemple, surtout avec votre liste de progrès. Il y en a certains qui me posent un peu problème. Par exemple, quand vous avez dit que vous avez répondu au jeune homme que oui, il y a du progrès. Avant, on était esclaves. Maintenant, on n'est plus esclaves. Je pense que c'est toujours mieux de comparer des choses qui sont comparables. Donc, quand on se compare, je pense qu'il ne faut pas se comparer au. Je pense qu'on ne se rend pas service quand on se compare au pire. C'est toujours de se comparer. Il faut toujours viser plus loin. Il faut que les dénominateurs communs soient le plus haut et non pas le plus bas. Pourquoi je dis ça, par exemple? Si on parle des esclaves à l'époque dans leur société, puis on se compare nous dans notre société, je suis pas convaincue. Je pense qu'on peut voir une constance. Donc les pas en avant que on pourrait sembler constater, ils sont minimes. Si on compare les Noirs dans la situation actuelle comparée au reste de la société. Il y a une discrimination évidente, il y a des inégalités évidentes. C'est pas en se disant ben au moins je ne suis plus esclave donc je devrais me réjouir. Je pense que il faut juste se comparer aux gens qui nous entourent puis dans la société dans laquelle on vit pour comprendre qu'il y a des problèmes. Puis ensuite pour le programme emploi. Le programme d'accès à l'égalité. Je pense que si on regarde les taux que le gouvernement, autant fédéral et provincial, s'était fixé pour l'embauche des personnes de minorité visible, quand année par année, on continue de démontrer qu'ils n'atteignent même pas la moitié du petit quota que se sont donné, parce que systématiquement, ils continuent à avoir une réfraction à embaucher des personnes de minorité visible et des minorités noires. Je pense que on peut voir qu'il y a encore là un problème. Puis quand le gouvernement n'emploie pas les minorités, je pense que ça envoie un message au secteur privé que eux aussi peuvent s'en passer. Puis je pense que quelque chose que j'ai constaté, parce que moi aussi moi, j'ai grandi dans une ville où est-ce que les Noirs, on était 0,001% de la population. Donc, moi, j'ai grandi dans un milieu où est-ce que la part des gens autour de moi étaient blancs. Donc, puis ça allait vraiment bien, là. C'est pas, je peux pas me plaindre là-dessus. Puis, j'avais aussi cette vision-là que tout va bien. Les jeunes, les gens que je côtoie, on s'aime. Donc, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de racisme, tout va bien. Mais je pense que ce que les jeunes... ils se rendent très rapidement compte, c'est quand tu sors, quand tu termines tes études et que là, tu rentres sur le marché du travail, c'est là que ça commence. C'est là que la réalité te rattrape très rapidement puis te remet à ta place, si on peut dire ça en guillemets. Donc, quand on dit les jeunes sont très ouverts, la culture urbaine, tout le monde aime le hip-hop, voilà, on est une grande famille, on s'aime. Je pense que dès qu'on entre dans des relations de pouvoir, dans des relations d'autorité, dans des relations de privilèges, dans des positions où est-ce qu'on est dans un milieu compétitif, on remet les points sur les i, puis tout le monde comprend où il se plante dans les chiquiers. Donc, pour moi, l'idée que racisme égale ignorance et préjugés, c'est très faux, parce que les plus grands racistes ne sont pas des gens qui n'ont pas terminé l'école secondaire, là. Ce sont des gens très éduqués, qui sont très, très conscients de leurs privilèges et qui sont prêts à tout faire pour maintenir ces privilèges-là. Donc, Puis encore une fois, je pense qu'il faut distinguer entre les relations de proximité, d'amitié qui se font vraiment sur une base un peu plus égalitaire, donc des relations de voisinage. Mon voisin, on s'aime, on se comprend, il n'y a pas de problème. Et faire une différence entre ce type de relation-là puis un type de relation où est-ce qu'on entre dans le politique, dans l'économique, où là, les privilèges vont se matérialiser, puis l'accès, ça devient une question d'accès, ça devient une question de pouvoir. Dès qu'on entre dans des relations de ce mode-là, c'est là qu'on se rend très bien compte comment la société organise les discriminations. Juste une dernière chose, je vais terminer avec ça. Quand vous avez dit qu'on devrait faire comme d'autres provinces qui ont initié des cours l'éducation antiraciste, personnellement, je continue à croire que un cours par-ci, par-là, qui nous apprend à s'aimer les uns les autres, c'est moins ça qui va faire la différence que vraiment inclure dans le curriculum les cours d'histoire, les cours au cégep en philosophie, tout ça. Je pense que si on réinclut l'histoire des Noirs, l'histoire des Amérindiens, l'histoire de toutes ces communautés-là qui ont formé ce pays-ci, le Québec et le Canada, je pense qu'il y a beaucoup de vérités qui ont été mises de côté. Puis c'est surtout ces vérités-là qu'il faut remettre. Et c'est un acte éminemment politique qui ne sera jamais fait. Donc, pour moi, tant qu'on n'enseignera pas que, oui, il y a eu des esclaves au Canada, puis qu'on continue à dire, non, les Noirs sont arrivés hier soir par bateau, ou les premiers sont arrivés par en venant des États-Unis, parce que les États-Unis sont les méchants, nous, on était gentils, ils sont venus au paradis. Tant qu'on continue d'enseigner des choses comme ça, il y a des progrès qui ne seront jamais faits. Puis il y a des avancées qu'on ne pourra jamais faire. Puis on ne pourra jamais prendre notre place tant qu'on ne pourra pas signifier l'historique de notre présence. Puis quand je dis notre, là, j'inclus aussi les Amérindiens, tous les communautés historiquement marginalisées. Donc pour moi, ça serait ce pas-là que j'attends de voir.
Ben écoutez, moi je vous remercie. Hein. Vous avez vos affirmations, parce que moi je ne peux pas faire une analyse psychologique de la discrimination, compte tenu de ma position. Là. J'ai une position institutionnelle aujourd'hui, là. Je n'ai pas donc une lecture sociologique de la question. C'est pour cela que j'utilise beaucoup les chiffres. On peut faire tout dire aux chiffres, mais les chiffres ne mentent pas. Quand je dis à ce jeune homme, il y a de l'amélioration là, c'était pour lui dire, tu as les moyens de t'enlever les chaînes. Et puis j'enseigne chaque année à ces jeunes, je leur dis, il y a la persévérance scolaire. Déjà, quand vous êtes instruit, c'est la moitié de votre servitude qui disparaît. Vrai ou faux? Donc, j'insiste dans ce milieu où je vous ai montré les chiffres. Là, quand 77% des gens de la communauté n'ont pas un secondaire 5, c'est inquiétant. Là. C'est des reproductions sociales de génération en génération, des facteurs d'exclusion. Et on ne me dira pas, moi je dis aux jeunes, tu ne me diras pas qu'il n'y a pas d'école. Tu ne diras pas qu'il n'y a pas les outils nécessaires à l'école. Ce qui te manque peut-être, c'est la persévérance et peut-être la motivation. Parce qu'on est quand même responsable dans nos communautés aussi, des éléments qui ne vont pas. Ce n'est pas la société qui va régler le problème de monoparentalité, par exemple. Ou, par exemple, du devoir scolaire à la maison. Donc, il y a des problèmes structurels qui existent. Et le gouvernement aussi doit investir. La ville de Montréal, si on prend le cas de Montréal, puisque la majorité sont à Montréal, on doit corriger. Moi, j'ai foi en l'éducation antiraciste. J'ai foi. C'est vrai que beaucoup de gens au Québec connaissent très peu leur propre histoire et que beaucoup de gens n'admettent pas qu'il y ait eu un passé esclavagiste ici. Ça, c'est certain. Mais c'est à cela que sert l'éducation aussi. Si le ministère de l'Éducation, dans le curriculum, avait inscrit tous ces éléments-là, on aurait pu le changer. Quand vous parlez du programme d'accès à l'égalité, je l'ai dit tantôt, il n'est pas contraignant. Je pense que c'est le seul défaut de la loi. La loi a été votée en 1985. Et s'il était un peu plus contraignant, on aurait eu des résultats. Et je veux même ajouter une chose qui est paradoxale. Il y a le programme d'accès à l'égalité qui est géré par la Commission des droits. Il y a actuellement 500... En 2010, il y avait 584 sociétés d'État qui étaient soumises à ce programme d'accès à l'égalité. J'étais à l'École nationale de police il y a à peu près 3 semaines pour aller parler de ça à tous les gradés de la police. Et parmi tous ces gradés, là, il y avait une femme. Et je leur ai dit, mais regardez, il y a déjà du progrès. Il y a une femme au moins. Peut-être que dans quelques années, ben, il y aura des gens d'autres origines qui vont être parmi ces gradés-là. Mais ces gens sont bien conscients qu'il y a des situations de discrimination systémique historique qu'on ne peut pas corriger du jour au lendemain. Le gouvernement fait des efforts, mais il faut que le gestionnaire soit convaincu que s'il recrute quelqu'un d'une minorité, ce n'est pas au rabais. Et souvent, quand le gestionnaire est convaincu, moi, je suis allé à Emma Québec, la gestionnaire était une femme convaincue, elle avait atteint toutes ses cibles. Mais je peux aller dans l'autre secteur, je peux aller à la ville de Sorel-Tracy, où le gestionnaire n'est pas convaincu, il ne fera pas d'efforts parce qu'il n'y a pas de contraintes. Alors, je ne crois pas nécessairement, c'est quand vous dites qu'on se respecte simplement dans la proximité par amitié, et que c'est quand on arrive en matière d'emploi que la discrimination se fait le plus fort. Je ne suis pas convaincu. Je vais vous dire simplement que 85% des emplois au Québec sont donnés de bouche à bouche. C'est le réseau. Et la majorité des personnes immigrantes n'ont pas de réseau. Et conséquemment, ne savent pas où aller trouver les bons emplois. Si je prends mon propre cas, j'ai connu un cas dans ma... Si je parle de mon itinéraire, moi j'ai connu comme beaucoup d'immigrants pendant 5 ans, ce qu'on appelle une déqualification professionnelle. Avant que je remonte. Et encore, c'est parce que pendant cette déqualification, j'ai connu des gens. Si je suis entré à la commission, c'est quelqu'un qui m'a appelé et me dit « Ah, il y a un poste qui s'ouvre, est-ce que tu ne vas pas venir postuler ?» Et je connais plein de cas. Moi, je trouve des emplois à des jeunes qui viennent me voir parce que je connais beaucoup de gens. Je viens de trouver un emploi à quelqu'un à l'Abitibi, un géologue. Mais c'est parce que je connais des gens. Et les gens l'ont embauché sans arrière-pensée, il avait ses compétences, ils l'ont embauché. Alors, il ne faut pas aller toujours vaincu. Il y a des situations de discrimination. Mais si on se compare avec le reste du Canada, moi, je dis qu'au Québec, on doit faire un peu plus d'efforts. Parce que tous les indicateurs d'exclusion au niveau du travail là, sont beaucoup plus marqués au Québec que, par exemple, à Edmonton ou à Toronto. Si on regarde la représentation dans les postes de direction, par exemple, des grandes sociétés, à Toronto, c'est moins vrai qu'à Montréal. Parce qu'il reste quand même que, bon, la situation minoritaire francophone du Québec fait que il y a peut-être ce que M. Trudel disait, nous sommes une majorité démographique, mais une minorité psychologique. Et il y a certainement une volonté, peut-être, de garder inchangées les règles du jeu. Mais je ne pense pas que ce soit la chose la plus répandue dans la majorité de la population. Il faut, moi, je fais ces ateliers là-dessus, la diversité en milieu d'emploi. Je rentre à moins l'infini, et puis quand je m'en vais, je suis à plus l'infini. Parce que je leur démontre, pas seulement par des incantations, je leur donne des exemples concrets de sociétés qui ont fait ces efforts et qui sont totalement satisfaite d'avoir diversifié leur personnel. Oui? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qui va traduire pour tout le monde?
It's a hard thing for them. So there is that reality that they have access, and if we're there at that level, they're not used to seeing us there. There's not an openness. I particularly feel that here in Quebec. Toronto, I didn't feel that so much, but I certainly felt that here in Quebec. So I think she has a very valid point in that, that they're not used to seeing minorities, especially in a, I have an MBA and a law degree from Columbia University. Okay, so I've worked in Europe for 25 years. I'm here in Montreal. I'm doing some projects with McGill and Samsung. Everywhere that I'm going, I'm talking to a lot of different companies here. I don't see any black people at any middle management or up. I see clerical people of color, but I don't see people in managerial positions. I certainly don't see them in director positions. And I've been to a lot of companies here in Montreal. I go to Toronto, it's a very different story in Toronto. So I think she has a very valid point that if you're growing up and not seeing those types of people in your environment and that you feel they're equal to you and have the same access, it's easier. But when you don't have that perception and don't know the history, it's very, very different. And I think that needs to be addressed.
Je vais vous donner l'exemple de cas, là. La SCM, le programme de la diversité de la SCM, ça fait à peu près 25 ans. Celui qui a mené la politique à la SCM était une ancienne personne qui a travaillé à la commission des droits. Donc, c'est quelqu'un qui était convaincu. Aujourd'hui, la SCM, là, est une société des postes hiérarchiques, aux postes intermédiaires jusqu'au chauffeur d'autobus, a dépassé ses cibles. Si je prends la Banque nationale, pareil. Mais si je prends les caisses populaires de jardin, c'est l'inverse. Pas de femmes, pas de minorités. Donc ça dépend encore des sociétés.
J'ai un moitié commentaire, moitié question. Sur le contexte dans lequel on travaille comme individus et sociétés sur ces choses-là. D'une part, le Québec a une charte de droits et libertés dont je pense qu'il est fier. Mm-hmm. Mais d'autre part, on a tout un débat sur le libelle des accommodements raisonnables, mm-hmm. qui est pour moi, ça cache un autre agenda qui est une limitation à ces accommodements, à mon avis. Et il y a deux jours, une politicienne très reconnue à Québec a dit, en anglais d'ailleurs, à la radio, que peut-être le multiculturalisme, c'est une valeur canadienne, mais ce n'est pas une valeur québécoise. Alors, personnellement, ça me donne des frissons de voir des choses pareilles. Et donc, ça m'inquiète par rapport au contexte dans lequel nous essayons d'avancer finalement sur une vision d'égalité réelle. Et donc, comme j'ai dit, c'est à moitié commentaire, mais question. Je ne sais pas si la Commission est en, a la possibilité de commenter sur ces choses-là, mais en tout cas, ça a un impact sur l'avancement sur ces objectifs-là.
Mais voyez-nous, on a les mains liées aujourd'hui. Hein? On a les mains liées parce que toutes les lois votées au Québec, que ce soit au niveau fédéral aussi, c'est pareil, là, doivent être conformes à la Charte. Toutes les lois. Et le gouvernement du Québec a annoncé à la Commission qu'elle allait utiliser la clause non-obstance, qu'on appelle la clause dérogatoire. Donc le ministre Max Fournier va présenter un projet de loi interdisant le niqab et la burqa dans l'espace public. Donc le gouvernement va se mettre au-dessus de la charte parce que la population réagit trop fortement vis-à-vis de ça. En 2006-2007, il y a eu ce qu'on appelle la crise des accommodements raisonnables ou déraisonnables. La presse a fait croire à la population que certaines minorités, essentiellement les juifs et les musulmans, avaient des demandes excessives qui donnaient l'impression que le Québec était paralysé. Et on a entendu à la radio, dans les journaux, des propos extrêmement xénophobes, vous souvenez-vous, s'ils ne sont pas contents qu'ils s'en retournent chez eux, si je vais chez eux, et puis si, et puis si, et puis ça. Il est certain que les Québécois sont sensibles sur deux sujets, à la différence du reste du Canada. Moi, je voyage à travers le Canada, je n'ai jamais entendu quelqu'un à Edmonton qui s'occupe du voile. Ce n'est pas le sujet, ce n'est pas leur tasse de thé le matin quand ils se lèvent. Et quand ils se lèvent, c'est le cours du pétrole qui les intéresse. Voilà. Mais ici, on est chatouillé sur deux sujets. La religion et la souveraineté. C'est les deux sujets qui fâchent. Alors, dès qu'on aborde, s'il y a des tempêtes. Et l'affaire des accommodements, c'est ça. Si la presse a présenté les accommodements de cette façon, c'est que la presse avait son agenda. La presse a essayé de défendre l'image d'un Québec unitaire et laïque. C'est la vision idéologique de la presse. Mais ce n'est pas ça la réalité dans la population. Là. Les gens ont la liberté de conscience qui sont garantis par la Charte. Et la Commission s'est toujours prononcée de façon courageuse sur l'affichage des symboles religieux. Déjà en 1995, la Commission a dit qu'il ne faut pas exclure des écoles secondaires les filles voilées. On était déjà en avance. On n'est pas en France ici. Là. On n'est pas au Danemark. Mais vous allez voir qu'il y a une tendance dans beaucoup de pays occidentaux depuis le 11 septembre, depuis avec la multiplication des attentats suicides dans les pays arabes, là, il y a cette perception ou cette attitude, même aux États-Unis, je commence à voir ça, ça n'existait pas aux États-Unis, mais maintenant on commence à le voir tranquillement aux États-Unis, de dire que c'est le racisme sans race. On ne dit plus qu'on n'est pas biologiquement identique, on dit simplement qu'il y a des cultures qui ne sont pas intégrables. C'est le racisme différentialiste. C'est ça qui est à la mode en Europe aujourd'hui. C'est le racisme xénophobe, anti-immigré, anti-réfugié, anti-tout ce qui n'est pas blanc. J'ai entendu quelqu'un ici, un responsable politique, je ne peux pas vous donner le nom, je suis de la Commission des droits de la personne, qui a dit que les problèmes se poseraient moins avec l'immigration si on allait faire venir des immigrants blancs et chrétiens. C'est un responsable politique. parce que c'est cela, il faut vivre avec ça et nous, on vit avec ça. Mais de façon courageuse, chacun fait sa part, la commission fait sa part pour que ben, les gens, pas parce que certains de nos concitoyens sont musulmans, que ça fait d'eux des citoyens de seconde zone. Maintenant, Angela Merkel a dit que le multiculturalisme a échoué en Allemagne. James Cameron a dit que ça a échoué en Allemagne. Alors, s'il y a un ministre québécois qui le dit, c'est une tendance qu'on voit dans beaucoup de pays occidentaux, qui consiste à dire qu'il y a des gens avec qui on ne peut pas vivre ensemble. C'est inquiétant, mais. Si nous sommes dans cette salle, c'est parce que nous sommes convaincus, on veut combattre ça, dans notre milieu, chacun à la fois. Moi, je vivais avec une femme québécoise quand il y a eu la crise des accommodements raisonnables. J'étais seul. J'étais isolé dans la famille. J'avais beau expliquer. Il n'y avait rien à faire. C'était des femmes, elles voyaient toujours la religion. Elles ne voyaient pas autre chose, elles voyaient que la religion. Comme si demain matin, on allait convertir à l'islam toutes les femmes au Québec. Comme si demain matin, les gens allaient se mettre à prier dans les rues à Montréal. C'est la peur. C'est la peur qui nourrit l'intolérance. Quand je parle de préjugés et d'ignorance, c'est la peur. C'est une dynamique qui est infernale. On peut faire peur à une population avec n'importe quoi. Il suffit qu'on soit un habile politicien. Mario Dumont n'a-t-il pas eu les gains pendant la période des accommodements en disant « le peuple québécois ne mettra pas les genoux à terre ». Cela a donné 40 députés. Ouais. Oui. Et les femmes immigrées. Il y a une étude, il y a Mme Chicha, là, qui est prof des relations industrielles au Québec, et puis il y a le ministère de l'immigration aussi qui ont publié des études récentes, là, sur la situation des femmes immigrées. Statut économique, statut social. Et effectivement, les hommes, ça ne va pas bien. Les femmes, ça va encore moins bien.
Et les Noirs, par rapport aux autres minorités ethniques,
sont beaucoup plus défavorisés. Par rapport aux femmes arabes, par exemple. Les femmes arabes, beaucoup de femmes arabes sont un peu instruites. Les femmes qui viennent d'Algérie, de Maroc, de Tunisie, sont un peu instruites. Les femmes noires ont des indicateurs de pauvreté ou d'exclusion comparables à ceux des femmes qui viennent de l'Inde ou du Sri Lanka. Souvent, le niveau d'éducation qui n'est pas très élevé. Et souvent aussi, il y a des stratégies familiales d'intégration où on donne la place au mari plutôt qu'à la femme. Donc, la femme reste en dehors du marché du travail pendant les 5 premières années au Canada. Et pour revenir dans le marché du travail, c'est beaucoup plus laborieux, c'est beaucoup plus difficile. Et puis, il y a cet aspect aussi, conciliation famille-travail. Quand on vient d'un pays où on avait des domestiques et puis on arrive ici, il n'y en a pas. Alors, ce n'est pas toujours évident pour ces femmes-là d'apprendre. Alors, les indicateurs sont, elles sont toujours en dessous des hommes. Si, par exemple, vous avez 17% de chômage chez les noirs, les hommes noirs, chez les femmes, ça va être autour de 22%. Oh non.
Je vais pousser encore plus loin.
Ouais.
Les femmes noires dans les médias, mais plutôt comment sommes-nous perçus par la majorité? Qu'est-ce qui ressent ces médias?
Et on se comporte exactement comme dans toutes les sociétés occidentales. C'est-à-dire qu'on se méfiera moins de la femme noire que de l'homme noir s'il est jeune. C'est un automatisme. En France, par exemple, il y a beaucoup d'exclusions qui frappent les Maghrébins. Et ce qui a frappé les sociologues français, statistiquement, les filles, les beurettes, là, ont moins de problèmes que les hommes. Elles, 70% du travail, elles n'ont pas de problème. C'est les garçons qu'on ne veut pas. Ici aussi, c'est pareil. Les femmes sont beaucoup mieux perçues.
C'est drôle, vous dites qu'elles sont mieux perçues, mais pourtant, entre nous, les femmes noires, on trouve qu'on en arrache, que c'est lourd à porter. Le fardeau social est très lourd. Encore là, ça peut être une perception, mais...
Quel fardeau social, dans quel sens vous dites ça? En matière d'emploi ou en matière de...
On va travailler, c'est pas un problème.
Oui.
Mais pour le... Juste la vie de tous les jours est lourde pour une femme noire comparée à un homme noir. L'homme noir, oui, peut-être il est plus perçu, il est plus agressif ou quoi que ce soit, on le retrouve en prison et tout. Mais après ça, le burden, c'est la femme noire qui se retrouve avec ça. Donc, si elle est perçue comme étant plus douce et tout, est-ce que c'est le fait qu'elle se tait, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne supporte, qu'elle n'en supporte pas plus? Je ne sais pas, je lance ça comme ça, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Même les femmes québécoises ont le fardeau de ce qu'on appelle le double emploi. On travaille de 9 à 5 et puis après on fait les travaux domestiques à la maison. Et il est bien établi que culturellement, ce n'est pas l'homme africain, l'homme haïtien ou l'homme arabe qui va aider la femme à faire la cuisine. Là. On s'entend là-dessus, là. Il y en a très peu qui le font. Là. Bon, ça c'est sûr que... bon. Elle n'est pas avantagée à ce niveau-là. Mais tout ça, c'est une question peut-être de génération. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup plus chez les femmes noires, c'est... parce que dans les années 80, le Canada a favorisé une immigration générale. Avant, les cibles étaient quelques populations bien ciblées, de préférence blanche, parfois asiatiques. Et puis dans les années 60, la loi sur l'immigration a changé. Notamment, j'ai une amie qui est une chercheure là, qui avait fait des recommandations au gouvernement fédéral en disant que vous ne pouvez pas juste faire venir au Canada des gens qui sont instruits. Il faut donner la chance aussi à des défavorisés dans le monde d'arriver. Alors, si vous regardez l'immigration haïtienne, celle des années 60 qui fuyait Duvalier est très instruite. Celle qui commence dans les années 80 n'est pas instruite. Il n'y a pas eu de synergie dans la communauté pour accueillir les nouveaux. Et ces nouveaux se sont retrouvés tout de suite dans des ghettos d'emploi, dans des quartiers que vous connaissez, Saint-Michel, Saint-Léonard, sont tombés dans les facteurs de paupérisation, et qui dit paupérisation, dit déstructuration sociale. Quand je vous dis qu'il y a 40% de filles monoparentales dans la communauté haïtienne, c'est comme aux États-Unis. Ça, c'est des gros problèmes sociologiques. Une femme qui doit aller chercher sa pitance ne peut pas faire les devoirs le soir à son enfant, elle est fatiguée. L'enfant est mis devant la télé. Et ça amène du décrochage. On a des taux de décrochage. Regardez, les Jamaïcains, 40%. 40% à Montréal de jeunes Jamaïcains qui décrochent. Ils ne sont pas idiots, les Jamaïcains. Ça, c'est des gros problèmes sociologiques. Alors, il faut peut-être encourager ces femmes-là. Mais le gouvernement, voyez-vous, hein, quand il construit le siège de l'orchestre symphonique, ça se voit. Quand il va construire le Colisée avec l'argent public, ça se voit. Si c'est pour investir dans les œuvres du docteur, comment il s'appelle, celui qui est dans l'Est de Montréal, docteur Julien, dans la pédiatrie sociale, ils ne vont pas investir là parce que ça ne se voit pas. Et pourtant, ça, c'est l'avenir. Parce que tous ces enfants, qu'ils soient blancs ou noirs ou jaunes ou whatever, qui sont abandonnés par le gouvernement aujourd'hui, dans 15-20 ans, c'est les mêmes qu'on va trouver dans la délinquance, qu'on va trouver dans la pauvreté, ça va être comme aux États-Unis, là, c'est la reproduction. C'est dommage. Mais nous, on attire l'attention. Pour le profilage racial, on va attirer l'attention du gouvernement sur ça. De prendre des mesures vraiment pour de lutter contre la pauvreté, sérieusement, de ces gens-là.
Et on a parlé surtout des jeunes hommes noirs.
Oui.
Dans le système carcéral, qu'en est-il des femmes noires? Est-ce qu'elles sont prévues à tout le monde?
Il y en a, oui.
Mais est-ce que c'est plus que d'autres moyens?
Non. Les femmes des minorités noires qui sont en prison le sont le plus souvent pour complicité avec le conjoint. Complicité. Trafic de drogue, trafic de stupéfiants, tout, faux papiers, tout ce que vous voulez, vol, c'est des choses comme ça. Ouais. Il y en a qui le sont aussi pour des crimes passionnels. Qui ont voulu tuer le mari ou whatever, tout ça. Ouais. C'est pas drôle. Ça, je n'ai pas les chiffres, mais je peux vérifier. Chaque année, je vais faire un atelier en prison, au pénitencier Leclerc, puis je vois. C'est encore plus dur quand on est une femme en prison. C'est beaucoup plus difficile. Très, très difficile. Il y en a même que j'ai vu qui ont perdu la notion du temps. Vous savez, c'est quoi lundi, mardi, mercredi? Ces gens-là savent même plus quoi lundi, mardi. Que voulez-vous? Oui?
Je voulais juste rebondir sur le commentaire que monsieur a fait sur le fait que je ne sais plus si c'est Pierre Curzi qui avait fait ce commentaire-là.
Multiculturalisme.
Louis Baudouin. OK. Mais je pense qu'au Québec, en gros, on a beaucoup, beaucoup de difficultés avec la politique de multiculturalisme. Mais ce que Mme Baudouin sait pertinemment très, très bien, vu qu'elle est allée à l'époque où est-ce que la politique a été votée, le Québec a une politique d'interculturalisme qui définit un petit peu différemment du multiculturalisme, mais pas de façon complètement opposée. Donc, le Québec, en ce moment, n'applique même pas sa propre politique d'interculturalisme. Et quand le Québec dit... c'est parce que la politique du multiculturalisme, en gros, elle dit qu'on va fonder société, tout le monde ensemble, aussi sur la base du français. Donc, beaucoup, on va souvent entendre les politiciens mettre de l'avant, apprendre le français, travailler en français, étudier en français, non. Mais ils oublient que les Haïtiens, ils connaissent très bien le français, là. Les Maghrébins connaissent très bien le français. Fait apprendre le français, ça veut rien dire quand dans une société où est-ce que les politiques sont... ont des sources très, très discriminantes et racistes. Mais je voulais aussi juste revenir sur un autre point qui est revenu souvent sur le fait que on en parle souvent dans les médias qu'il y a une déclassification professionnelle pour surtout pour les immigrants qui arrivent ici avec toute leurs études et la profession qu'ils exerçaient dans leur pays. Mais historiquement, ça n'a rien de nouveau parce que même, par exemple, les Noirs qui venaient les esclaves qui venaient du Canada, qui fuyaient les États-Unis, même eux, même les premiers Noirs canadiens ici, même les premiers Antillais qui sont venus au Canada, tous, une grande partie d'entre eux avaient des skills, des habiletés très très précises, des techniques très très précises, mais en arrivant ici, ils ne pouvaient pas les travailler dans leur domaine, justement à cause de la discrimination et du racisme qui existait dans le marché de l'emploi, mais aussi dans les politiques. Donc, il y a une constance là.
C'est pas nouveau.
C'est pas nouveau. Puis, pour les femmes, je sais pas, moi, j'ai toujours beaucoup de difficultés quand on dit que il y a certaines cultures qui n'encouragent pas leurs enfants à étudier ou à performer, qui n'encouragent pas leurs enfants à être persévérants. Je pense pas qu'il y ait des parents qui veulent pas que leurs enfants soient médecins. Là. Je pense que, mais je pense qu'il y a des facteurs économiques très très précis auxquels on peut pallier. Là. Une mère monoparentale qui n'a pas le temps d'aider son enfant à faire ses devoirs, justement parce qu'elle doit travailler puis fatiguée puis comme pas la tête à ça. Je pense que je pense qu'il y a des limites à dire à cette mère-là, ben c'est ta faute si ton enfant ne performe pas, qu'il ne veut pas aller à l'université. Je pense que si notre société n'a pas fait le choix d'avoir des programmes d'aide aux devoirs, des programmes très, très concrets, comment ça se fait que cette mère-là doit travailler 3 jobs? Juste là, il y a un problème. Juste ça, c'est un problème. Comment ça se fait qu'on n'élève pas le salaire minimum? Puis ça, c'est toutes des politiques qui c'est sûr qu'ils vont bénéficier à la communauté noire puis toutes les autres communautés discriminées, mais qui sont bonnes pour la population. Puis une société respectable, digne de ce nom, devrait avoir sur pied des mesures qui vont élever le niveau social de la société. Donc, il y a des choses très, très concrètes qu'on ne veut pas adresser, puis qu'on va mettre ça sur le dos, mais ces enfants-là ne sont pas persévérants, ils n'aiment pas l'école, ils veulent juste jouer au basket ou faire du pop. Là. Je pense que il faut faire attention avec certains facteurs qui sont parfois trop psychologisants et qui oublient l'aspect très concret, économique et politique des choses.
Ah, ça c'est sûr. Hein. C'est pour cela que je dis le gouvernement doit faire sa part de choses. Hein. Moi, je vis dans le quartier Saint-Henri, qui est très pauvre, là. Un programme d'aide aux devoirs mis en place pour les jeunes. Quand ils quittent l'école, ils restent là jusqu'à le temps que les mamans ou les parents rentrent, là jusqu'à 20 heures. Et ça donne des résultats. Ça donne des résultats. Mais ça, ce n'est pas des initiatives que le gouvernement va soutenir partout. Moi, j'ai vécu en Allemagne. Le filet social est tel que on n'a aucune raison d'échouer dans le système. Là. Tout est là pour vous aider. Là. La femme peut rester à la maison, s'occuper des enfants, elle va avoir suffisamment d'argent pour faire ça. Mais c'est des pays qui sont personnes en Amérique du Nord comme des pays socialistes. Donc, ça ne risque pas d'arriver du jour au lendemain ici. Alors, interculturalisme ou multiculturalisme, c'est le jeu de mots. Hein. Et je vais enlever ma casquette de la commission. Il y a quelque chose qui est frappant. Ma collègue disait ce matin, et ça aussi souvent quand je suis avec mes amis québécois natifs, je leur dis, méfiez-vous de la dichotomisation. Inconsciemment, dans le discours, c'est nous, eux, eux. Nous, eux, eux. Partout. Tout le temps. Alors, j'étais à la LUCAM une fois. J'ai demandé aux gens, dans la salle, deux fois, deux ans successivement, aux jeunes de la faculté d'éducation, je leur ai demandé, pour vous, c'est quoi être un Québécois? J'ai tout entendu. Des futurs enseignants. C'est payer les impôts au Québec. C'est parler français. C'est qui vit ici. Ou qui est marié à une femme d'ici. Alors, vous entendez tout ça. Hein, des gens à l'UQAM. C'est le temple du savoir, quand même, là. Dans le même temple du savoir, je suis allé une fois à un colloque organisé par le département de travail social avec un invité français. Et ce monsieur est arrivé. Si vous avez entendu tout ce qu'il a dit à propos des musulmans, ça m'a tellement choqué. J'ai dit, je suis surpris qu'à l'UQAM, on tolère des gens comme ça. Au point que celui qui a organisé la conférence a dû m'envoyer une lettre d'excuse. Il parlait des postérieurs qui envahissaient les rues en France le vendredi à midi. C'est comme ça qu'il parlait tout au long de son exposé. J'étais à un autre colloque organisé par McGill d'ailleurs, le CRIDAC, je ne sais pas, c'est le. En tout cas, c'est des gens qui s'occupent de relations interethniques, là, invités des Européens qui étaient venus à ce colloque. Et j'ai entendu une dame, professeure à l'Université Laval, qui a répondu à une autre dame, qui est prof de génie à Polytechnique, qui est voilée, qui lui a demandé, madame, je suis voilée. Je suis la seule qui est voilée dans ma famille. Je suis kabyle. Mon père était contre. J'ai étudié en Algérie. J'ai étudié en France. J'enseigne à Polytechnique. Qu'est-ce que je dois faire de plus pour que vous m'acceptiez? Évidemment, cet éminent prof de l'Université Laval, qui animait un groupe d'enseignantes féministes, a répondu à côté. Moi, j'ai repris la question. J'ai dit, écoutez, madame, il faut se méfier de certaines choses. Je voyage à travers le Canada. Ce discours d'exclusion que vous parlez là, ce n'est pas des choses qu'on entend ailleurs au Canada. Il y a des réticences parfois, mais ça ne va pas jusque-là. J'ai dit, il faut se méfier de prendre des exemples sur la France. La France n'est pas un modèle. Si c'était un modèle, il n'y aurait pas toutes ces émeutes-là. Alors, elle m'a dit, le Canada anglais est un pays quasiment étranger pour nous. 92% de nos échanges universitaires se font avec la France. Donc, je ne prends mes exemples qu'en France. Il va sans dire que cette femme est contre les accommodements, qu'elle est contre la soumission des femmes musulmanes, qu'elle est contre tout ce qui dépasse. Et c'est ça aussi le réactionnaire. C'est celui qui cherche à garder inchangé des pratiques ou des habitudes du pays. Il peut se cacher, comme vous l'avez dit, sous le manteau d'un universitaire. Il peut se cacher sous la tunique bleue d'un col bleu de Montréal. Ça peut se nicher partout. Mais c'est sûr que quand il va se nicher dans les classes supérieures, il va être beaucoup plus idéologique que concret. Ce n'est pas quelqu'un qui a été instruit qui va aller brûler votre voiture parce que vous êtes noir. Non, il ne fera pas ça. Il connaît les limites objectives. Et ce que la loi dit, la charte ne dit pas « aimez-vous les uns les autres », ce n'est pas la Bible. On vous dit qu'il y a des lois, là. Même si vous n'aimez pas l'homosexuel, gardez vos projets dans vos placards, puis arrangez-vous avec ça. J'ai dit aux policiers, si ça ne vous plaît pas, démissionnez. Vous laissez le projet dans le placard, vous mettez l'uniforme, vous allez faire votre travail. S'il y a des délinquants, vous les connaissez, mettez-les en prison. Nous avons demandé à la police de Montréal, vous consacrez 55% de vos ressources contre la lutte à la criminalité des gangs de rue. Les gangs de rue, là, c'est 55 criminels endurcis, répertoriés. Avec un réseau de complices de 270 personnes, ça nous fait 300 000 personnes. Et c'est 50% des ressources policières qui sont consacrées à ces gens, qui sont responsables de 1,7% de la criminalité, 1,7 seulement. On leur demande, ils disent, oui, la population a peur. Mais qui fait peur à la population? Alors ça peut être un système. Et ça, c'est... J'étais avec le chef de la police, comme je vous parle ici. J'ai dit, qu'est-ce que vous allez faire concrètement? On se réunit, on fait des réunions pour des réunions, là. Il a dit, il faut que vous compreniez que c'est une grosse organisation, on ne peut pas changer les mentalités du jour au lendemain. C'est 5000 policiers, ça ne change pas du jour au lendemain. Mais il faut toujours questionner dans la communauté ce qui ne va pas aussi. Il faut que les communautés aussi s'autocritiquent et aillent faire des revendications légitimes auprès du gouvernement. Les Jamaïcains à Toronto l'ont fait, et aujourd'hui ils en retirent les bénéfices. Ces mêmes Jamaïcains, quand ils étaient au Québec, ils n'étaient pas organisés, on ne les écoutait pas. Mais à Toronto, on les écoute, parce qu'ils sont beaucoup plus unifiés aujourd'hui, et qu'ils parlent d'une seule voix. Pourquoi on écoute la communauté juive et puis on n'écoute pas la communauté haïtienne? C'est ça aussi le positionnement aussi des groupes ethniques dans l'échiquier politique d'un pays. Il y en a qui font plus pression que d'autres, ils sont mieux organisés que d'autres, et ainsi de suite. Tout ça, c'est des dynamiques sociales qui permettent de lutter contre toute forme de préjugés, d'inégalité, qu'elle soit d'origine historique ou purement factuelle. Si ça, je peux vous envoyer l'étude sur les femmes immigrantes. C'est épais, hein? C'est, je vois, 105 à quelques pages. Il y a beaucoup de tableaux. Oui?
I just wanted to say thank you. This is very helpful. I definitely want a copy of the slides.
Okay.
I moved here this summer, and I researched racism in the United States and Bermuda. And white people and how they become anti-racist and these kinds of things. And even when I came to McGill for my job talk last year, everyone says to me, well, we don't have the racism here, so what are you going to study here? And I think having these statistics for education, income, unemployment, incarceration is very, very helpful to show that, in fact, it seems almost the same to me as the States. So that's just thank you, because it's going to be very helpful in my work. But another thing that was really interesting to me were the when we were looking at the overrepresentation in prison, that First Nations or Aboriginals are also extremely high. And are there coalitions among Black Canadians and Aboriginals where they work together?
It's very different. En, statistiquement, là, les Noirs s'en sortent mieux que les Autochtones. Même pour la prison, vous avez vu, il y a plus d'Autochtones que de Noirs. Économiquement aussi, les Noirs vivent dans les grandes villes. Ça règle déjà le problème. Quand vous allez aussi, vous allez un jour au Manitoba, dans le nord de Manitoba ou la Saskatchewan, si vous voyez les réserves indiennes, vous aurez pitié. Hein? C'est le tiers-monde. Le tiers-monde. Le tiers-monde. On est au Canada. Il n'y a que 600 000 Indiens au Canada ici. Et il rentre 250 000 immigrants par an, 300 000. Si le Canada peut régler le problème de 300 000 immigrants par an, ne peut pas régler le problème de 600 000 autochtones, c'est qu'il y a un problème quelque part. Il y a un problème. Oui.
Je pense que je demande aussi, est-ce que le groupe noir et les groupes autochtones, est-ce qu'ils se mettent ensemble justement pour améliorer les conditions des groupes noirs?
Ils se mettent souvent avec les juifs seulement. Souvent quand ils luttent là, ils se mettent avec les juifs. Parce que les juifs sont compréhensifs de la situation de discrimination des Noirs et vont souvent porter les revendications noires, parfois à l'Assemblée nationale, parfois devant les autorités politiques. Ouais. Oui.
Sur le profilage racial, ouais. la Commission des droits et libertés, versus celle que les policiers ont vu là récemment, oui. De l'été dernier, s'il y avait des différences ou des choses qui seraient importantes à soulever à ce niveau-là.
Quand on a fait les audiences publiques à l'automne 2009, le conseiller de Monsieur Tremblay, là, c'est quel parti? Ce sont tous quelque chose Montréal, là.
Union Montréal.
C'est pas Vision, c'est Union. Les unionistes, là, il y a eu le chef de la police qui était arrivé, un représentant de la ville et puis le représentant de Snowdon, qui a dit devant les caméras que ça n'existe pas. Que la priorité pour les immigrants, c'est de trouver un toit et un travail. C'est la déclaration qu'il a faite publiquement. Le contraire de ce que les policiers qui étaient là pensaient. Ils ont déposé un mémoire à la ville de Montréal, ils ont déposé un mémoire, mais il y a une évolution. Depuis qu'on a changé le chef de la police, on a eu une réunion il y a deux semaines, et nous a dit, M. Parent nous a dit, déjà, M. Lingana, on va vous faire plaisir, on va changer la définition, parce que la police avait sa définition du profilage racial. Et là, il y a un changement dans la nouvelle politique, ça va être officiel bientôt, là, ils reprennent la définition de la commission. Donc, c'est déjà une évolution. Deuxièmement, ils vont introduire l'imputabilité des superviseurs en cas de profilage, parce que jusqu'à là, il n'y en avait pas. Et quand ils vont être imputables, on est en train de discuter maintenant, c'est quel type d'imputabilité. C'est la sanction. Moi, je dis, c'est pour faire 4 jours à faire des photocopies et puis gagner ces 60 000 $, là, c'est pas une sanction, ça. Voilà, c'est pas une sanction. Donc, on est en train de réfléchir par rapport au code de discipline de la police, comment ils vont être imputables. Ouais. Par exemple, le Saint-Michel, M. Parent a été commissaire de Saint-Michel pendant des années. Fadi Daguerre lui a succédé. Et la police de Saint-Michel a gagné même des prix internationaux par rapport à sa façon de fonctionner avec la communauté. Mais ça a pris 10 ans pour changer la façon de travailler avec la communauté. Ça a pris 10 ans. Elle nous a dit c'est lent. Mais à Saint-Michel, ça marche très bien. Au point qu'il y avait l'escouade spéciale Eclipse qui combattait les gangs de rue, là, ben, les policiers de Saint-Michel ne voulaient pas que l'Eclipse vienne dans leur quartier parce que ça défaisait toute cette confiance qu'ils avaient bâtie avec la communauté. Ils se sont rendus compte aussi que quand les policiers sont convaincus qu'il faut agir contre ça, c'est souvent le collègue qui dénonce l'autre dans la voiture. Il va dire, l'autre, je ne veux plus patrouiller avec lui parce qu'il est comme ça. Et c'est comme ça qu'il a dit qu'à Saint-Michel, ils ont pu sortir tous les policiers cow-boys, là. Ils les ont renvoyés pour aller dans d'autres services de police. Mais évidemment, si on ne les chasse pas, qu'ils vont ailleurs, ils vont les reproduire ailleurs. Les policiers, qui voulez-vous, ils ne font pas un travail qui est facile. Ils vivent avec le crime 24 heures sur 24. Parfois, il faut réagir vite. Et c'est ce que la commission leur dit. Il ne faut pas que vous arriviez dans un coin et puis le premier noir fait l'affaire parce qu'il a une capuche noire. Non. Est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il porte des lunettes? Est-ce que ci? Est-ce que ça? Il faut que vous ayez tous les indicateurs. Il ne faut pas interpeller les gens pour harceler les gens. Donc, il y a déjà le discours qui se rend. Le nouveau directeur, il me semble, en tout cas, on verra bien là, l'épreuve des faits, là, qu'il est prêt à apporter les changements nécessaires. Mais je sais que les policiers aux États-Unis, on l'a vu. Au New Jersey, là, la Cour fédérale a imposé l'approbation au service de police New Jersey et ça a fonctionné. On a mis des caméras sur les voitures. Quand on a mis les caméras, mais les États-Unis sont un pays extrême. Quand on a mis les caméras, on est passé du over-profiling à du under-profiling. Le policier dit, moi, je vais toucher ma pension. Si quelqu'un vole, je ne le regarde pas. Si les noirs, surtout, je continue là, je ne le regarde pas. Bon, faut pas tomber dans les extrêmes non plus. On demande aux policiers de faire leur affaire. Quand vous êtes de Saint-Michel, les jeunes qui nous disent à Concentration Musique, Joseph-François Perrault, moi, je vais à l'école, je suis sérieux. Pourquoi on me stigmatise dans les médias? Parce qu'il y a 55 bandits dans le quartier. Mais qu'on les arrête, qu'on les fout en prison. Et ce que nous demandons à la police de Montréal, on dit, monsieur Poltroni, vous dites bonjour monsieur, vous le menottez correctement, vous le mettez dans l'auto correctement. Pourquoi ne faites pas ça avec les autres jeunes? Ce sont des citoyens pareils. Il faut les arrêter de la même façon. Quand c'est un mafioso, on fait ça avec politesse. Quand c'est un jeune des noirs, on le met par terre, on le tape, tout ça. Mais là, c'est ça. C'est le traitement différent. Oui.
Routinely go to the metro to kind of go home. And routinely I see officers there stopping black kids. And I watch them. It's only black males. And recently I was wearing a hat and my thing, and I got stopped.
Wow.
Okay? Recently, like 2 weeks ago. And I'm American, and they said, excuse me, why are you stopping me? And I said, well, and then as soon as they heard that I was female, they said, oh, no, it's okay, you know, have a good night, okay? 2 weeks ago. So, I mean, that's never happened to me in New York. New York's a little different from Montreal. But I got to tell you, it was a real wake-up call for me to see how we are perceived to the police here. Mm-hmm. Then no metro. You can go now and you'll see them. So you're telling us that they're dismantling that? I mean, that's 2 weeks ago this happened to me. So that's one of the reasons why I wanted to come today and hear about what you're saying about Montreal and everything, because I just couldn't believe this happened to me. And I told everybody I possibly could in New York City that this happened to me. And I just, like, what? No probable cause. No nothing. As soon as they hear I was female, it's like, oh, okay. Sorry.
Mais le rapport, il va sortir. Vous allez sur la publique, là, vous allez voir que à Toronto, ils ont fait le même exercice et puis ça a beaucoup changé. On a changé le chef de la police, on a changé le ministre, on a formé les policiers et puis ça a beaucoup baissé à Toronto. Kingston aussi, pareil. Et puis il y en a qui sont... La police d'Ottawa est venue suivre nos audiences pour mieux prévenir que guérir. Ils sont en Ontario, mais ils sont venus suivre. Parce qu'aux États-Unis, vous voyez, il y a des États où ça a beaucoup baissé. Il y a des États où ça existe encore. Ça dépend des États.
Ouais. Donc, pour terminer, vers où est-ce qu'on se dirige? Where are we heading to?
Votre collègue n'est pas d'accord. Votre ami, elle a dit qu'il ne faut pas comparer des situations qui ne sont pas comparables. Si je prends le cas, si on regarde les rapports des Nations Unies, l'état de la discrimination au Canada, quand on le compare à celui aux États-Unis, ou à la France, ou à la Belgique, ou à la Hollande, le Canada n'est pas le pire des pays. Au moins, les gens ici au Canada, si c'est prouvé, si l'allégation est prouvée, ils peuvent se voir rendre justice. Parce qu'il y a des condamnations au Canada des services de police. Allez faire condamner un policier en France, je vais voir si vous êtes capable. Allez faire condamner un policier. Ici, il y a des policiers qui ont été condamnés, renvoyés. On vient d'en renvoyer un il y a 2 mois. Qui a arrêté un délinquant haïtien d'origine haïtienne, non seulement il a cogné la tête plusieurs fois sur le capot, il l'a traité d'hostile de nègre. 3 fois. Bon, on l'a renvoyé. Le prochain policier du SPVM, il fera attention, il va le penser, mais il va le dire. Ah, il y a des cas comme ça. Hein? Il y a quoi? Non. Au Canada, le préjugé racial ou l'acte racial, tant qu'il n'est pas haineux, n'est pas criminel. Ce n'est pas un délit criminel. Si je vous dis sale nègre ou sale arabe, là,
C'est une injure raciale, ce n'est pas criminel. À Haineux, par exemple, c'est aller profaner des tombes juives. Là, c'est criminel. Aller faire des graffitis dans une mosquée, oui, là, c'est... Si vous agresse physiquement.
Mais sa question, c'est sur l'aspect de l'abus physique.
L'aspect quoi?
L'abus physique.
Le politique a battu le jeune haïtien. Pourquoi il n'y a pas été
en prison? On appelle ça arrestation musclée.
Wow.
Parce que les policiers sont entraînés pour utiliser la force. Donc la loi leur donne de façon discrétionnaire l'usage de la force dans certaines circonstances. On va maîtriser un individu. Mais il a été renvoyé pour les deux. Usage disproportionné de la force et injure raciale. Il a été renvoyé pour les deux. L'individu était un criminel, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas une raison.
Mais quelle protection est-ce que nous, on a
aussi,
quelle satisfaction la personne qui a été battue,
qui a vécu ce... On a renvoyé le monde. Oui, mais personnellement... Il ne sera plus policier au Canada ici.
Moi,
si je change de pays...
Moi, si on va dire, je ne sais pas, je me fais être en priori, je peux amener la personne en faute qu'elle va aller en prison pour un certain crime, mais quand quelqu'un comme ça, parce que c'est même pas justifiable l'utilisation de la force. C'est comme si on est perdant. Il n'y a comme aucun moyen de se protéger, mais de faire une main ou d'avoir un droit civique contre cette institution-là. Donc, c'est très problématique.
Mais non, il y a eu des droits quand même. Oui, si ce jeune homme avait déposé une plainte à la commission, il a déposé à la déontologie.
Oublions l'uniforme.
Oui.
Si je suis dans la rue comme ça, puis il y a une convocation à quelqu'un, puis je me fais frapper, on traite de moi, tout ça, il y aurait quand même une certaine procédure que je peux engager pour cette personne-là, elle est en prison. Mais
oui.
Mais est-ce que c'est pour cette immunité? Avec cette uniforme-là, on ne peut pas se défendre. C'est comme si
on peut...
on n'est pas des citoyens du
mais
monde.
Mais non, non, non. Les policiers, là, c'est 6 mois pour déposer une plainte. Mm-hmm. Si le citoyen, quel qu'il soit, sent qu'il est lésé. Ça peut être n'importe où, là.
Okay, bon,
pas une affaire de blanc ou de noir, si vous êtes lésé.
Sinon, je crois pas que c'est en place. C'est-à-dire, le problème, c'est que la personne qui a été victime, elle n'a pas entamé les procédures pour...
C'est ça. Okay. Elle n'a pas déposé une plainte à la commission. Wow. C'est à la déontologie seulement. Okay. Parce que vous pouvez déposer une plainte à la déontologie et à la commission. Deux plaintes. Mm-hmm. La déontologie, c'est le code de discipline de la police. On va sanctionner le policier dans la police. Et puis, là, nous, on va donner ça au tribunal pour les dommages punitifs et moraux. Parce que la commission ne peut pas mettre quelqu'un en prison. Le tribunal des droits de la personne n'envoie personne en prison. C'est des condamnations pécuniaires. Dommages moraux, dommages punitifs, et puis ensuite, mesures de redressement. Que ça ne se reproduise pas dans le milieu où c'est arrivé.
Est-ce qu'il y a des cas où des personnes, justement, ils ont amené un policier en cours?
Mais c'est ce que je vous ai dit. La ville de Montréal est un avocat qui est redoutable. Il a cassé toutes les affaires de la commission, là, il les a freinées quasi. Maître Boisvert, il est très bon. Il a envoyé deux de mes collègues en barrage. Il est procéduré. Il ne questionne jamais le fond de l'affaire. Donc, juste la crédibilité de la victime. Il demande des sous-pénas. Il demande des. Ça, on est au Canada, ça peut durer 6 ans. On sait qu'on va gagner, mais ça va prendre 6-7 ans. C'est pour cela qu'on a fait la consultation publique, parce qu'au niveau du tribunal, on ne peut pas avancer. Quand un policier a un problème, il y a non seulement Maître Boisvert, mais il y a 4 avocats pour le policier. La commission n'a qu'un avocat pour défendre la victime. Alors ça peut aller loin.
Ouais. Vous pensez, je ne sais pas si vous voulez retirer le chapeau, mais l'affaire de...
Moi, je ne peux pas me prononcer parce que je suis à la commission.
Oui.
On a silence radio. Ah, ok. Il paraît qu'on doit partir. Silence radio parce que, comme c'est l'enquête du coroner, la commission ne peut pas se prononcer. Merci. Merci, merci, merci.